Ce matin, on va parler d'adoration. L'adoration, vous savez, aujourd'hui, c'est un mot pas vraiment à la mode. En tout cas, peut-être pas pour les bonnes raisons. L'adoration a perdu beaucoup de son lustre. Aujourd'hui, on peut adorer un animal de compagnie, on peut adorer se divertir, on peut adorer un fromage, on peut adorer être confortable, on peut adorer le travail d'un tel artiste. En fait, qu'on en soit conscient ou non, l'être humain est foncièrement un être adorateur. Peu importe qui on est dans la vie, on adore tous quelqu'un ou quelque chose. Il s'agit de se creuser les méninges pour s'en apercevoir. Et c'est dans ce contexte d'adoration que Dieu, suite à avoir donné les 10 commandements au peuple et avoir dit à Moïse, voici le livre d'alliance que je vais te donner pour m'adorer, Dieu a appelé Moïse sur le mont Sinaï. Il lui a dit beaucoup de choses. Moïse est resté 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï et Dieu lui a montré, vraiment, vous allez m'adorer parce que moi, j'ai de la valeur et du prix à vos yeux. Je ne suis pas n'importe qui. Et vous allez m'adorer parce que je ne suis pas n'importe qui. C'est dans ce contexte-là que Dieu va s'entretenir avec Moïse dans le passage qu'on va voir ce matin. Pendant 7 chapitres, ce matin, on va voir ensemble 7 chapitres. Jérémie, vous ne les lira pas tous, évidemment. Mais pendant 7 chapitres, du chapitre 25 jusqu'à 31, Dieu va révéler de manière très claire quel type d'adoration il va exiger de la part du peuple. Le peuple ne va pas adorer Dieu comme ça lui convient, à sa propre manière, mais Dieu va commander et exiger à son peuple une adoration. Voilà la manière dont je veux être adoré parce que j'en suis digne. Et pour nous en donner un aperçu ce matin, juste un petit sonnaire des 7 chapitres sur lesquels on va fonder l'exposé de ce matin, j'ai invité ce matin Jérémie à bien nous lire deux textes qui ont été choisis parmi les 7 chapitres qu'on va voir ce matin ensemble. Et juste pour nous donner un aperçu, un peu une idée maîtresse de qu'est-ce que Dieu veut nous dire à propos de l'adoration quand il a appelé Moïse sur le mont Sinaï. Donc, sans plus tarder, je vais inviter Jérémie à la lecture.
Alors, le passage biblique de ce matin est tiré d'Exode au chapitre 25, versets 1 à 9, et le chapitre 29, versets 42 à 46, dans l'édition second 21. Alors, Exode au chapitre 25, versets 1 à 9, suivi du chapitre 29, versets 42 à 46, dans l'édition second 21. L'Éternel dit à Moïse, « Ordonne aux Israélites de m'apporter une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et du bronze, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. » des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez ce tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Ensuite, nous allons aller vers Exode au chapitre 29, versets 42 à 46. Voilà l'holocauste perpétuel que vous offrirez au fil des générations à l'entrée de la tente de la rencontre devant l'Éternel. C'est là que je vous rencontrerai et que je te parlerai. J'y rencontrerai les Israélites et ma gloire sera de cet endroit un lieu saint. Je consacrerai la tente de la rencontre et l'autel. Je consacrerai Aaron et ses descendants pour qu'ils soient à mon service en tant que prêtre. J'habiterai au milieu des Israélites et je serai leur Dieu. Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les a fait sortir d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu.
Merci, Jérémie. Merci, Jérémie, pour la lecture de ce texte vraiment rempli de détails techniques. Vous avez un peu de temps à perdre l'après-midi, là. Lisez Exode 25 à 35, puis si je vous conseille, mettez-vous un petit dictionnaire à côté. parce que pectoral, éphod, sanctuaire, c'est des mots qui ne viennent pas nécessairement devant notre déjeuner du lundi matin, comprenez-vous? Pour beaucoup de monde, c'est un non-sens, une incompréhension d'utiliser des mots d'une telle précision, vraiment d'un texte rempli de détails techniques, un texte assez long, 240 versets, du chapitre 25 jusqu'à 31. Et évidemment, je me suis un peu creusé la tête pour essayer de résumer 7 chapitres au complet. La synthèse, c'est pas nécessairement de mes forces, mais là, résumer 7 chapitres, là, OK, comment je vais faire ça? Alors voici la proposition que je vous suggère ce matin, simplement pour résumer la pensée de ces 7 chapitres-là. Dieu est saint et il est digne d'être adoré de manière précise. C'est par sa grâce que nous pouvons lui témoigner vraiment notre adoration. L'idée que j'aimerais que vous reteniez ici, c'est que en ce qui concerne l'adoration qu'il mérite, Dieu n'y va jamais de main morte. Il commande à son peuple de l'adorer dans un cadre et des conditions particulières et extrêmement précises. Il laisse pas la discrétion à son peuple de l'adorer comme ça va lui plaire. Dieu va lui fixer des paramètres. Il va lui fixer des conditions sur « voici comment vous allez m'adorer ». Et pourquoi, on pourrait se poser la question, pourquoi Dieu est aussi spécifique dans sa manière qu'il exige l'adoration de son peuple? Eh bien, la première raison, c'est tout simplement que Dieu est un être parfait qui vient habiter au milieu de son peuple. Ça, c'est clairement établi dès le début du chapitre 25. L'Éternel demande à son peuple de lui construire un sanctuaire, un tabernacle, c'est-à-dire une demeure qui va être le signe de sa présence parmi le peuple. Il vient habiter parmi lui. Et ce qui est nouveau ici, pour cette époque-là, c'était que, à l'époque, lorsqu'on construisait quelque chose pour un ou des dieux, un temple, un sanctuaire, on le faisait pour s'attirer la faveur de ce dieu ou de ces dieux-là. Plus le temple était grand et gros, majestueux, plus la présence du dieu ou le fait d'attirer son attention, ben, on était sûr de pouvoir le faire parce que ce qu'on lui construit, c'est majestueux. Donc, c'est sûr qu'il va venir. Par exemple, les Égyptiens avaient construit une ville qui s'appelle Héliopolis. Héliopolis, c'était une ville sacrée où est-ce qu'on construit pas juste un temple, on va construire une ville à des dieux qui sont tous liés au soleil. Et dans cette ville-là, il y avait un temple en particulier, le plus grand de la ville, qui avait 1 kilomètre de long par 500 mètres de large. Et autour de ce grand temple-là, il y avait plein d'autres oracles, des oratoires, des chapelles et d'autres sanctuaires dédiés à d'autres dieux qui étaient tous liés au soleil. Comprenez-vous que c'était un cadre architectural extrêmement impressionnant. Vous avez déjà vu des obélix? Pas les cartoons d'Acastérix, mais des vrais obélix, des grandes pierres, ceux que le obélix porte sur son dos. Il y en avait environ des milliers dans cette ville-là. Alors, c'était vraiment quelque chose que les Égyptiens avaient construit pour s'attirer la faveur des dieux. Ici, ce que Dieu dit à son peuple, c'est que vous allez faire exactement le contraire. Il ne va pas demander à son peuple de construire un lieu pour attirer sa bénédiction, pour attirer sa présence, gagner sa faveur. Mais vous allez construire cet endroit-là pour manifester que je suis déjà présent au milieu de vous. C'est une grâce que je vous accorde d'être au milieu de vous. Et pour manifester cette grâce-là de ma présence, vous allez me construire un sanctuaire. C'est pas tant la demeure qui va être sacrée que ma propre personne. C'est moi qui vais sanctifier ce temple-là. Ce sanctuaire-là, c'est pas lui qui va attirer ma bénédiction, ma faveur. C'est moi, simplement parmi vous, qui va être manifesté par un temple. Un lieu précis où je vais venir vous rencontrer. Ici, ce qui est important de comprendre, c'est que Dieu, à la base, n'a pas besoin d'être abrité. Dieu est omniprésent. Dieu y est partout en même temps. Ça, c'est un trait de sa personne. Et c'est une des raisons notamment pourquoi il va demander que chaque élément de ce sanctuaire-là, il va demander que chaque élément puisse être transportable d'un endroit à un autre, qu'il soit mobile. Parce que moi, je suis pas le Dieu nécessairement d'un endroit précis. Je suis Dieu partout. Et c'est pas parce que vous changez d'endroit que ma présence ne vous sera plus assurée. Moi, je vais vous suivre. Donc, quand vous alliez à Chibougamau ou à Koudjouak, moi, je vais être là parmi vous. Donc, vous allez pouvoir amener ce temple-là et moi, je vais être au milieu de vous pour assurer mon omniprésence parmi vous. Et Dieu insiste ici sur le fait que le peuple doit comprendre la valeur et l'importance de sa présence parmi eux en construisant ce temple. Le temple doit être, d'une certaine manière, pas le temple, mais le sanctuaire qui va vous construire. Ça doit manifester que je suis là au milieu de vous et que les autres peuples qui vont le voir disent « OK, il se passe quelque chose de spécial ici, là. » Ça me fait penser, lorsque j'ai invité ma conjointe Laura manger la première fois avec moi, qu'est-ce que vous pensez que je lui ai préparé? Du poisson, de la poutine? Non, ni un ni l'autre. Je voulais pas l'amener au resto, comprenez-vous? Je voulais lui démontrer, je voulais que ce soit spécial. Pensez-vous que je lui ai fait du pâté chinois? Non, du Kraft Dinner? Ben, je pensais pas gagner, je pensais pas lui démontrer mon appréciation de sa présence, je pensais pas lui démontrer la joie que j'avais à rencontrer la femme avec qui j'allais rester le restant de ma vie en lui préparant du Kraft Dinner, même si je mettais des saucisses dedans, comprenez-vous? Je voulais faire plus que ça pour elle, je voulais que ce soit spécial. Généralement, quand on discute avec quelqu'un, on dirait que plus qu'on mange, c'est bon, plus on apprécie la conversation. Bien, je lui ai fait, d'une certaine manière, ce que je savais faire le mieux à cette époque-là. J'ai fait un riz sauté aux légumes. C'est ce que je savais faire le plus à l'époque. C'est ce que j'aimais le plus. C'est ce que je savais faire le mieux. Je voulais lui démontrer que j'appréciais sa présence, comprenez-vous? Puis, c'est pas en faisant du pâté chinois que je voulais lui montrer ça. Bien, d'une certaine manière, Dieu ici désirait à l'époque que le peuple savoure et expérimente sa présence en lui construisant un sanctuaire avec des choses précise, des choses précieuses pour que le peuple savoure quel Dieu on est en train d'adorer. D'une certaine manière, Dieu va dire à Moïse, je veux que ma présence soit honorée dans des conditions bien spéciales. Et il va dire à Moïse que je veux que ma présence et ma sainteté soient respectées et je veux que ma sainteté soit honorée. Je ne viendrai pas habiter parmi vous puis ça va avoir une influence sur qui vous êtes, et ça va se faire selon des conditions précises. Tournez avec moi dans l'Exode, au chapitre 28. Chapitre 28, le verset 36, nous dit ceci. Alors, il parle ici à Moïse. Il lui dit, « Tu feras une lame en or pur, et tu y graveras, comme le fait un graveur, de cachet, sainteté à l'Éternel. » Tu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tiare, sur le devant de la tiare. Elle sera sur le front d'Aaron. Ainsi, Aaron sera chargé des fautes commises par les Israélites lorsqu'ils m'apporteront toutes leurs saintes offrandes. Elle sera constamment sur son front devant l'Éternel pour qu'il leur soit favorable. Ce qu'on voit ici, c'est que Dieu ne fait pas de compromis avec lui-même. Il vient vers son peuple, mais sans renier le fait qu'il est profondément différent d'eux. Avant d'entrer dans le sanctuaire, le prêtre doit avoir été lavé, purifié, sanctifié. Et une fois que ça a été fait, il doit avoir offert des sacrifices dans un protocole et un cadre bien précis. Après ça, il pourra porter sur lui les péchés du peuple afin que Dieu se montre favorable à sa sainteté. Ça se faisait près de l'Arche de l'Alliance, dans le lieu très saint. Là où Dieu dit à Moïse, c'est là que je vais te rencontrer. Dieu s'est toujours soucié d'être adoré pour ce qu'il est et comme lui-même l'entend. Regardez par exemple ce qu'il dit au chapitre 26, chapitre 26, verset 30. Il dit à Moïse, « Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » D'une certaine manière, ici, Dieu ne laisse pas le peuple le loisir d'improviser son adoration envers lui. Il lui dit, « Voici ce que j'exige de toi. Je vais te donner un modèle, tu vas le suivre. Ma perfection ne peut pas être adorée autrement qu'en par ma révélation. » Pourtant, ce qu'on remarque dans les 7 chapitres, c'est que même si Dieu donne un modèle à suivre au peuple, il va tout de même laisser le loisir à certaines personnes du peuple d'avoir le loisir d'exprimer personnellement leur talent dans ce sanctuaire-là. Notamment, il va servir des artistes. Regardez ce qu'il va dire, chapitre 26, verset 1. Tu feras le tabernacle avec 10 tapis en fin lin retors et des étoffes teintes en bleu, en pourpre et en couronne moisie. Tu y dresseras des chérubins selon l'or du brodeur. Plus loin, au chapitre 31, il nous dit ceci au verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Sache que j'ai choisi Betsaleel, fils d'Uri, et petit-fils de Hur de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. » Intéressant ici de voir que Dieu s'attache et s'associe à son peuple, où est-ce qu'il prend des exigences que lui-même impose au peuple, mais en même temps, il laisse un certain cadre personnel aux artistes pour pouvoir exprimer leur talent, talent qui vient même de l'Esprit de Dieu, dit-il, qui s'exprime ici de manière personnelle. Ce qu'on voit, c'est que Dieu ne fait pas construire le temple comme si on était des robots, si le peuple était des robots vidés de toute humanité. Ce que Dieu dit, c'est que voici le tabernacle que vous allez me faire pour manifester ma présence parmi vous, ma présence de grâce. Cependant, vous devez comprendre que, et c'est là mon deuxième point ce matin, que l'adoration de Dieu ne peut s'envisager que par des gestes très précis. Dieu est un Dieu d'ordre. Un Dieu qui sait comment il mérite et comment il est digne d'être adoré. Comment il est digne que l'humain plie devant lui, se soumettent à lui et le mettent au-dessus de tout. C'est comme ça que le peuple d'Israël a été appelé ici, dans le désert, à adorer Dieu de manière précise. Ce qu'on voit notamment, c'est que la deuxième personne du singulier et la deuxième personne du pluriel ou la troisième du pluriel, c'est-à-dire tu, vous ou il au pluriel, ça revient à 160 reprises dans le texte sur lequel on s'intéresse ce matin. Sur 240 versets, 160 fois, on nous dit « Qu'il m'apporte une offrande, vous ferez le tabernacle, ils feront une arche de bois, tu feras une table de bois, un chandelier, un voile bleu, l'autel et les ustensiles, tu feras pour Aaron et ses fils des vêtements sacrés. » OK, autre chose? Y a-t-il d'autres choses que tu t'attends de moi? Là? Ça peut être lourd, comprenez-vous, le peuple? Dieu exigeait ici, voici comment vous allez m'adorer, mais c'est constamment tourné vers le peuple. Vous allez faire ceci pour moi. Regardez par exemple ce qu'il dit au chapitre 29. Chapitre 29 au verset 37. Pendant 7 jours, tu feras des expiations sur l'autel et tu les consacreras. Ainsi l'autel très saint et tout ce qui le touchera sera saint. C'est qui ici qui sanctifie? Qui consacre? C'est-tu? C'est encore Moïse et le peuple ici qui consacrent les expiations, qui consacrent le temple. Ce qu'on voit clairement ici, c'est que Israël, c'est le pourvoyeur de l'adoration exigée par Dieu. C'était au peuple de faire en sorte que la présence de Dieu soit scrupuleusement observée parmi eux. Est-ce que vous aimeriez avoir ce mandat-là? Si je vous dis ce matin, tu ne commettras pas de péché, tu manqueras pas de patience, tu vas te lever à 5h30 du matin pour te mettre à genoux, pour laver les pieds de ta femme, tu vas brosser les dents de tes enfants, tu vas faire ceci, tu vas faire ça. Comment vous sentiriez? Écoute, OK, je veux bien, mais c'est juste des choses que je fais moi qui fait que je peux t'adorer toi? Parce que Israël, ici, ça semble, ici, le contexte, que Dieu expose sa sainteté à son peuple. Il dit, vous allez me respecter, comprenez-vous, vous allez faire ceci, vous allez faire ça, puis je veux pas de compromis. Sinon, le texte dit très bien à plusieurs reprises que si vous ne le faites pas, vous allez mourir. La suite de l'histoire nous dit que le peuple juif n'a pas su se montrer à la hauteur de la situation. Toute cette série de lois-là a souvent pesé sur lui comme un fardeau. vraiment pesant, lourd. Ça a été souvent lourd pour Israël de porter tout ce poids-là que Dieu lui demandait et exigeait, lui commandait de porter. Et le résultat a été plutôt lamentable pour Israël. La tente, oui, la fameuse tente que Dieu demande ici à Israël de construire dans le désert, va faire place à un temple majestueux construit par le temple, par le roi Salomon. Un temple qui a été par la suite négligé, détruit, reconstruit, puis modifié. Mais à la base, le peuple, son adoration envers Dieu, c'est souvent a été défini, si on regarde le respect de la loi que Dieu lui a donnée, comme étant lamentable. Ce n'est pas en faisant des choses qu'on peut vraiment adorer Dieu. L'histoire d'Israël nous le prouve. Force nous est de constater que c'est par la grâce de Dieu que l'adoration qu'il mérite peut lui être vraiment rendue. C'est par la grâce de Dieu que l'adoration qu'il mérite en tant que créateur de l'univers peut lui être vraiment rendue. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les exigences de Dieu en ce qui concerne son adoration ont toujours été les mêmes et ça va toujours rester. Ce que Dieu a dit à son peuple dans l'Exode, c'est encore vrai aujourd'hui. Voici mes exigences pour être vraiment adoré, voici qui je suis, puis c'est encore vrai aujourd'hui. Par contre, ce qui va changer, avec la venue évidente de Jésus-Christ, c'est pas le contenu de la loi, c'est son expression vivante, sa manifestation. C'est ce qui va changer avec la venue de Jésus-Christ. C'est pas ce que Dieu va exiger comme adoration, mais c'est l'expression vivante de cette adoration-là, cette manifestation-là, où Jésus va représenter le parfait adorateur de la personne de Jésus. Israël a échoué lamentablement dans sa poursuite de la loi à observer. Alors Dieu, ce qu'il a fait, c'est qu'il a simplement envoyé son Fils pour nous montrer une voie à suivre et même la vivre lui-même aussi scrupuleusement que Dieu l'a toujours exigé. Allez dans l'Évangile de Jean, au chapitre 2. On voit dans l'Évangile de Jean, au chapitre 2, que Jésus se situe au temple qui a été modifié par Hérode, et puis il dit à un moment donné ceci aux vendeurs et aux trafiquants qui se trouvent dans le temple, sur le parvis, il leur dit ceci, « Ôtez cela d'ici, ôtez vos tables, ôtez votre argent, ôtez ces animaux-là que vous êtes en train de vendre, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Vous vous souvenez de cet épisode-là dans le temple? La fameuse fois où Jésus chasse les vendeurs du temple? Mais voici ce qu'il dit dans Jean, au chapitre 2, verset 18. « Les Juifs prirent la parole et lui dirent, « Quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en trois jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple et toi, en trois jours, tu le relèverais. » Cependant, lui parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Ce qu'on voit ici, c'est que Jésus présente sa vie et son corps comme le vrai temple de Dieu. Tout ce qui a été demandé à Israël dans l'Exode, dans le désert, au mont Sinaï, n'est en fait que le pâle reflet. Ce n'est que le pâle reflet ou la préfiguration de ce que Jésus lui-même va venir accomplir parmi nous il y a de cela 2000 ans. Il va venir représenter la présence sublime, sainte et entière de Dieu. Voilà ce que Jésus est venu ici, sur terre, faire. Représenter parfaitement la volonté de son Père. Accomplir cette loi-là qui pesait sur Israël lourdement. Jésus dit, voilà, moi, je vais venir l'accomplir. L'adoration de Dieu, c'est toujours faite par une alliance de grâce. Et ça n'a pas commencé avec Jésus. Les Juifs dans le désert ont été sauvés par grâce de la même manière que nous le sommes nous-mêmes. Tout ce qui a changé par rapport au fait que Dieu a donné sa loi, c'est que Dieu a donné sa loi au peuple d'Israël dans le désert. Voici comment vous allez m'adorer. Et maintenant, quand il a vu notre échec, l'échec de l'humanité à faire cela, il a simplement envoyé son Fils comme une réponse gracieuse, sublime, merveilleuse, pour dire, « Moi, le Fils de Dieu, je vais venir accomplir cette loi-là et je vais la manifester ultimement parmi vous. » C'est ça qui nous émerveille aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Pensez à un jeune enfant qui apprend à marcher. Parfois, c'est difficile, il apprend à marcher, il est vacillant, mais comment les parents réagissent lorsqu'un jeune enfant commence à marcher? Moi, je vous explique. Moi, quand j'ai vu la première fois mes enfants marcher, moi, je suis énervé. Comprends-tu? Je suis texté. Il a fait un pas, il a bougé un bras, il a réussi à faire trois pas. Hey, maintenant, c'est comme on est texté, on est émerveillé simplement par le fait qu'il met un pied devant l'autre, puis ça nous énerve. On dirait qu'on court comme des polpatins dans la maison. « Hey, t'as-tu vu? » Puis là, on appelle grand-maman, on appelle la tante. « Hey, il a commencé à marcher, c'est-tu merveilleux? » Ben oui, c'est bien merveilleux. Puis là, l'enfant progresse. Il prend de la maturité physique. Puis là, il commence à marcher tout seul. Il commence à courir, à gambader un peu partout. Là, des fois, on est moins émerveillé. Mais c'est d'autres choses qui vont nous émerveiller. Mais plus tard, on va être émerveillé parce qu'il fait une addition. On va être émerveillé parce qu'il est capable de conjuguer l'imparfait, la phrase qu'il est en train de faire. On va être capable de s'énerver puis de s'émerveiller parce que, hey, comprends-tu, finalement, il court plus vite que moi, cet enfant-là. Puis là, on s'est émerveillé par toutes sortes d'autres choses. Pourquoi? Parce qu'il a pris de la maturité. On n'est plus impressionné simplement parce qu'il met un pied devant l'autre. On est émerveillé par autre chose. Et ce qu'on voit un peu ici dans l'exemple, c'est que Dieu est comme un père qui, dans le livre de l'Exode, prend la main à son peuple et lui dit, « Voici comment tu vas m'adorer. Voici comment tu vas marcher avec moi. Je vais te dire quoi faire, comment le faire et comment le faire. » OK, Seigneur. Dit, viens avec moi, là, viens, viens-t'en, je vais te montrer comment faire. Et là, Jésus-Christ arrive. Au temps propice, il envoie son Fils, la personne parfaite qui vient vers nous, la personne de Dieu, en chair et en os. Et là, il manifeste parfaitement une belle maturité où est-ce qu'il accomplit toute la loi. Et là, on est émerveillé non plus parce que Jésus nous dit quoi faire, comment le faire et pourquoi le faire, mais on est émerveillé parce que quelqu'un, Dieu a eu la grâce de nous envoyer un être absolument merveilleux, Jésus-Christ, pour l'accomplir lui-même pour nous parce qu'il sait très bien qu'on n'est pas capable de le suivre. Dieu est rendu, d'une certaine manière, lui-même le pourvoyeur et le modèle par excellence de l'adoration qui lui est due. Dieu nous demande de l'adorer et il nous envoie son Fils pour que, d'une certaine manière, lui-même, son Fils, devienne le plus grand adorateur qui soit, parce qu'il est lui-même Dieu, et que ça se devienne lui-même le pourvoyeur de la propre adoration qui lui est due. Au lieu de nous donner une série de lois à observer, Dieu nous a donné son Fils et le don de sa vie sur la croix. Et qu'est-ce que ce don-là sur la croix a fait avec le fameux voile du lieu très saint? Qui a été construit dans le lieu très saint, le voile a été complètement déchiré. Le lieu où on rencontrait Dieu, l'Arche de l'Alliance, s'est ouvert à toute l'humanité, par la foi. Dieu ne nous demande plus de nous vêtir pour venir le servir. Il ne nous demande plus d'être habillés d'une certaine manière et de porter un diadème, un pectoral, ou un éphod pour venir rentrer dans le lieu très saint et savourer sa présence. Voici ce qu'il nous dit maintenant au sujet de ces vêtements-là. Éphésiens chapitre 4 nous dit ceci au verset 20. Mais vous, en parlant à ceux qui ont goûté déjà la saveur de l'Évangile en la personne de Jésus, mais vous, ce n'est pas ici que vous avez appris à connaître le Christ. Si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné, conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. D'une certaine manière, on parle ici de la nouvelle naissance. Dieu ne nous appelle plus à construire des vêtements pour le servir, mais il va venir lui-même habiter en nous. C'est lui-même qui va nous revêtir de sa propre personne. C'est ce qui est arrivé à la croix, où Dieu envoie son Fils pour porter un fardeau, le fardeau de la loi. Il met sa main dessus, il le fait mourir, il le fait ressusciter, afin que la personne de Jésus-Christ vienne maintenant, par la foi et la repentance, venir habiter en moi et me revêtir parfaitement de cet esprit-là de Jésus qui a tout accompli pour moi. Comprenez-vous que je suis loin de la performance et du mérite de l'obéissance à la loi? Pour beaucoup de gens, leur adoration, c'est ce qu'ils vont offrir à Dieu. Leur argent, leur temps, leur service, leur famille, leur emploi. L'adoration, ce n'est pas ce qu'on offre à Dieu. En tout cas, pas complètement. L'adoration, c'est ce que Dieu produit lui-même en nous. C'est la manière dont il vient habiter en nous. C'est la grâce extraordinaire et immense qu'il déploie sur nous. Pour beaucoup de gens, l'adoration, c'est une question de feeling. Je sens que j'adore Dieu lorsque je me sens bien dans ma peau, puis que je sens que je vibre au même diapason que lui. Puis si je sens que je ne le ressens pas, là, ben, on dirait que je me sens coupable, puis je me sens cheap de ne pas pouvoir l'adorer comme il le mérite parce que mon cœur n'est pas là. Ça vous est déjà arrivé? De tenter d'adorer Dieu, mais le cœur n'est pas vraiment là pour diverses raisons. Une épreuve, le moral dans les talons, diverses situations qui vous préoccupent. Ce qui est important ici de comprendre, c'est que l'adoration, ce n'est pas par essence une question de feeling. C'est une question d'identité. Je suis un adorateur de Dieu, non pas tant pour ce que je lui offre, pour ce que Dieu m'a acquis à la croix. Une nouvelle identité. Dieu me sauve en Jésus-Christ. Il me sauve de lui-même. Il me protège de lui-même. Voici mes exigences. Je sens que vous n'êtes pas capable de les respecter. Parfait. Je te fais la grâce. Je t'envoie mon Fils qui va accomplir lui-même ce que j'exige de toi pour m'adorer vraiment. Et ce que tu dois adorer maintenant, c'est pas tant ce que tu m'offres, parce que tu ne seras jamais assez bon pour m'impressionner dans ton adoration, parce que tu m'offres. Mais Jésus-Christ, lui, voilà de qui je suis impressionné. Tourne les regards vers lui, parce que c'est mon adorateur parfait. C'est lui qui a pris mes exigences, qui les a observées scrupuleusement, et maintenant je peux te céder, par la foi et la repentance en lui, je peux te céder ma justice, ma sainteté, mon esprit. Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit à la femme samaritaine dans l'Évangile de Jean au chapitre 4? Jean chapitre 4, verset 23. Voici ce que Jésus dit à la femme samaritaine. « L'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. » Adorer Dieu en esprit et en vérité. Pas l'adorer parce que je lui offre, mais l'adorer selon la vérité, l'esprit qui est en Jésus-Christ. C'est lui qui m'a réconcilié avec Dieu et qui a mis fin au fait que je ne suis pas assez sur la coche pour pouvoir respecter tout ce que Dieu exige de moi. Voilà comment Dieu nous amène aujourd'hui à l'adorer. En fonction de ce qu'il a exigé dans l'Exode et qui demeure encore, mais à travers la personne sublime de Jésus-Christ, qu'il a tout accompli pour moi. Adorer, c'est une grâce, c'est un privilège. Et j'ai bien aimé ce que Charles a dit tout à l'heure, je peux adorer autant Dieu en chantant du Yatal qu'en tondant le gazon. Parce que Dieu m'appelle à vivre cette adoration-là dans chaque aspect, chaque dimension de ma vie. Le célèbre écrivain Victor Hugo a déjà dit ceci. Le plus lourd des fardeaux, c'est d'exister sans vivre. Vous savez, c'est possible d'exister en tant qu'adorateur, mais sans vivre la grâce que Dieu nous a donnée. C'est possible de pouvoir tenter d'exister en tant qu'adorateur en offrant des choses à Dieu, en essayant de gagner sa faveur, sa bénédiction. Je cours à la perte comme Israël a couru à la sienne. Parce que je ne vis pas en esprit et en vérité ce que par la foi Jésus-Christ veut déverser sur moi. Son esprit qui à la croix s'est fait Dieu qui était homme pour le pardon de mes péchés et que par ma repentance je sois réconcilié avec la personne de Dieu. Dans Matthieu chapitre 11, verset 26, excusez-moi, verset 28, voici ce que dit Jésus. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, peut-être le fardeau de la performance pour plaire à Dieu, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences, même si elles sont bien hautes. Et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Les exigences sont bonnes parce qu'elles viennent du Créateur de tout, mais elles sont légères parce qu'elles ont déjà été portées gracieusement par Jésus-Christ. Même dans l'adversité la plus sombre, Jésus-Christ a ce pouvoir-là de restaurer dans mon cœur son image à lui d'un parfait adorateur de la personne de Dieu et qu'on puisse trouver avec délice et plaisir le fait de savourer la présence de Dieu, son esprit, sa sainteté, sa justice dans chacune de nos vies. Même quand ma petite fille vient de renverser son verre de lait pour la deuxième fois du repas, Dieu me donne ce plaisir-là de savourer sa présence parmi nous, au milieu de nous, comme il l'était dans l'Exode avec son peuple, Dieu est maintenant avec nous. Non pas parce qu'on lui érige un sanctuaire, mais parce qu'il a déversé son esprit sur nous. J'aimerais terminer ce matin simplement en nous donnant cet engagement, ce défi-là de nous engager ensemble, l'Église de l'Espoir, comme des adorateurs en esprit et en vérité. Que nous adorons Dieu pour les bonnes raisons, les bons motifs, un cœur qui est épris de sa présence. Est-ce que votre cœur ce matin est amoureux de la personne de Dieu? Est-ce qu'il est prêt à plier l'échine devant lui et lui dire, « Seigneur, quelle grâce merveilleuse que tu m'accordes, que je puisse t'adorer et savourer qui que t'es, non pas parce que je fais des choses pour m'approcher de toi, mais parce que toi-même, en Jésus-Christ, tu t'es d'abord rapproché de moi pour me réconcilier avec toi et pouvoir m'unir à la sainte présence de qui tu es. » C'est incroyable, cet privilège que Dieu nous a accordé. Simplement, pour conclure, j'aimerais vous citer un petit passage du groupe. Est-ce que vous connaissez Yatal? Oui, je pense que oui, hein? Ça vous dit quelque chose? Yatal a lancé récemment un album Chrysalide. Si vous n'avez pas encore écouté cet album-là, je vous dis, allez sur iTunes, puis téléchargez-vous cet après-midi cet album-là. Vous allez être complètement chamboulé par la poésie, la manière dont ce groupe-là amène l'Évangile dans le texte, mais également par une musique qui est... Moi, vous savez, moi, je suis un amateur de musique. Moi, c'est vraiment d'un calibre extrêmement élevé, ce qu'ils font. Pour moi, j'écoutais ça hier matin, puis j'adorais Dieu. Pas en jouant du Yatal, mais en écoutant du Yatal. C'est une bonne manière de commencer une journée. Ça diversifie un peu notre manière de méditer. Où est-ce qu'on peut prendre un texte, puis simplement le savourer, puis en pensant à ce matin, ce que Dieu m'avait mis à cœur de vous partager par rapport à l'adoration, ce texte-là est venu sur une de leurs chansons et peut-être que Charles me pardonnera, j'ai changé un petit peu certaines petites phrases pour l'adapter. Dans une de ces chansons qui s'appelle « Cluedo ». Alors voici ce qu'on nous dit. « Ouvre les yeux sur la beauté de la vie, celle de Jésus-Christ. Laisse-toi éblouir par l'infini et juste admirer l'évidence de l'harmonie qui va de l'infime à l'immense. Le Dieu parfait contemple l'impossible de ce qui a été créé en Jésus-Christ, le Dieu parfait qui s'est incarné parce qu'il est tout-puissant et que ce que nous voulons faire maintenant, c'est l'adorer. On va se courber dans un moment de prière. Seigneur, ce matin, mon désir, notre désir en tant qu'assemblée d'Église de l'espoir, c'est célébrer, adorer, contempler, s'émerveiller de qui tu es. Quel être extraordinaire et incomparable tu es, non seulement dans le fait que tu nous aies donné ta loi, non seulement dans le fait que tu nous as dit ce qui était bon de faire, tu nous as dit, Seigneur, voilà comment vous pouvez parvenir à m'adorer. Et tu as vu notre imperfection, tu as vu notre vulnérabilité, notre incapacité à reproduire ce que tu exiges de nous. Et au lieu de faire un compromis avec tes exigences parfaites, tu as envoyé ton Fils, Seigneur, sur la croix. Accomplir ce que nous étions incapables de faire. Voilà pourquoi nous voulons t'adorer en esprit, en vérité. Célébrer le fait que cet esprit que tu nous as donné, celui de ton Fils, tu l'as déversé, Seigneur, sur ceux qui mettent ta foi en toi, qui se repentent de leurs fautes et qui acceptent maintenant de ne plus tenir le volant de leur vie à deux mains, mais d'en céder le contrôle complet à ta volonté. Voilà comment nous voulons t'adorer, Seigneur. En remettant, Seigneur, tout ce que nous sommes sous ta grandeur qui va de l'infime à l'immense. Apprends-nous, Seigneur, à cultiver dans notre vie le fait de te contempler pour qui tu es et non pas pour ce que tu nous donnes. Nous ne voulons pas, Seigneur, t'adorer simplement pour tes mains généreuses, mais pour ton visage qui est tout simplement splendide. Quand on tourne les regards vers toi, nous sommes rayonnants de joie. Apprends-nous à t'adorer, Seigneur, selon ce que toi-même tu nous demandes de faire pour trouver tout notre plaisir en toi, même dans la plus grande des épreuves. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Amen.